Bonjour, réjoui d'être à nouveau là avec vous ce matin pour partager le culte, célébrer le Seigneur avec ensemble, réfléchir aussi précisément sur qui nous sommes. Dans mon ministère pastoral, je me suis trouvé confronté souvent avec cette question des uns et des autres, qui suis-je ? Question que l'on pose en connaissance de cause, question que l'on se pose sans savoir que l'on se la pose. Car en fin de compte, dans notre vie, elle n'est faite qu'une vie de crise. Alors bon, il y a les crises économiques, il y a les crises de société, mais il y a aussi les crises au plan de l'identité. L'enfant, dès son plus jeune âge, passe par des étapes différentes. Celles dont on se souvient, celle qui marque le plus les parents, c'est laquelle ? C'est l'adolescence. Mais l'enfant, il a déjà passé des crises avant cela, mais celle qui va le faire passer de l'enfance à l'adulte, c'est l'adolescence. Et l'adolescence est une période qui est quelque peu difficile. Difficile à vivre pour l'individu, difficile à vivre pour les parents, difficile à vivre aujourd'hui plus qu'hier, car en fait, ça c'est les bonnes nouvelles d'aujourd'hui, hier on disait une jeune fille étant fait sa crise d'adolescence entre 12 et 14 ans, un garçon c'est un petit peu plus tard entre 14 et 16 ans. Aujourd'hui, on nous parle de crise d'adolescence à partir de 10 ans. Et la crise d'adolescence, elle se prolonge à tel point que l'on en est arrivé à créer un nouveau mot, l'adolescence, parce qu'en fait, il y en a qui sont dans une adolescence perpétuelle jusqu'à l'âge de la retraite. Après l'âge de la retraite, c'est fini. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Il y a la crise de la quarantaine, il y a la crise, bref, il y a toujours ces crises qui viennent et qui me disent qui suis-je ? Ce matin, je voudrais quelque part avec vous pouvoir réfléchir sur ça. En fait, dans notre introduction de culte, et merci, c'est il y a l'espérance qui est là et qui est promise, certes, mais suis-je capable de saisir quelle est l'espérance si je ne sais pas au départ qui je suis ? Ça, c'est le problème. Qui suis-je ? Je m'appelle, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, Jean-Marie Thomas. Ah ! Pas toujours. Car sur ma carte d'identité, un jour, l'administration communale m'a dit « Nous ne sommes pas capables de mettre des traits d'union, donc on va contourner le problème et on va enlever le trait d'union entre Jean et Marie et ça passe. » Ça passe tellement bien qu'aujourd'hui je m'appelle sur ma carte d'identité Thomas, ça mon nom n'a pas changé, quoique il y en a certains que ça change, Jean, le mari, ça devient un deuxième prénom. Coût de l'opération, quand je me trouve à la banque et que je dis je m'appelle Thomas Jean-Marie, on me dit mais on ne connaît pas de Thomas Jean-Marie. Donc je m'appelle, oui, bon, d'accord, j'ai, ah, ça je peux vous le signaler, 70 ans, et c'est assez récent, c'est tout à fait récent et frais, n'est-ce pas, Marie-Luce, puisque en fait ça date du 14 août. Alors, si vous allez sur mon mur Facebook, vous allez voir une belle photo de Federer, hein, le tennisman bien connu, qui a un superbe t-shirt. Tous les hommes sont nés égaux, ce que je conteste, je ne suis pas d'accord avec ça, car en fait, compte que tu sois né riche ou que tu sois né pauvre, tu n'auras pas le même destin, et tu ne seras, il n'y a pas d'égalité à ce niveau-là. Moi, je dis, il n'y a jamais qu'une seule égalité dans la vie. C'est un seul moment, c'est que tout le monde doit mourir. Ça, c'est clair. Mais la naissance n'est pas forcément une notion d'égalité. Mais sur le t-shirt, il est marqué, si tous les hommes sont nés égaux, mais ceux qui sont nés au mois d'août sont les meilleurs. Là, je suis d'accord avec lui. On ne peut pas toujours être en désaccord avec tout le monde. Je suis le mari d'une seule femme, ça je vous l'apprends, mais bon, moi je suis convaincu. Ma profession, ah, quelle est ma profession? Homme à tout faire, oui. Alors certains diront, mais tu es pasteur. Moi je dis non, je ne suis plus pasteur. Moi je suis retraité. Mais non, quand on est pasteur, on reste pasteur jusqu'au bout. Et je dis non. Pour moi, le ministère pastoral, c'est lorsque l'on rassemble un troupeau. Moi, je ne suis plus le berger d'un troupeau. Quoique, ma femme dira, mais quand je vois le nombre de gens qui arrivent ici, qui n'ont pas d'église et qui viennent te trouver, oui, d'accord. Donc, est-ce que tout cela vous dit qui je suis? Eh bien, pas forcément. Et si ce n'est pas pour vous une conviction, ben ce ne l'est pas non plus pour moi. Parce que, bon, j'ai 70 ans, mais dans ma tête, je vous signale que je ne les ai pas du tout. Bon, où trouver mon identité? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous à la recherche de notre identité depuis notre plus jeune âge. Nous avons besoin de savoir qui nous sommes. Nous avons besoin de sentir que nous valons quelque chose pour quelqu'un ou pour plusieurs. J'ai besoin de savoir que j'existe, j'ai besoin de savoir quelle est ma valeur. Nous nous demandons ce qui peut nous donner cette valeur. D'où vient-elle? D'où vient notre identité? Alors, nous sommes dans une crise de société aujourd'hui qui fait que, en fait, l'identité par la société, dans un passé qui n'est pas aussi lointain que cela, l'identité nous était donnée par la société dans laquelle nous vivions. Moi, je suis né à Liège, en la ville de Liège. Ah, moi, mais non. Anne-Marie, elle, est née à Huy, c'est pas Liège. Hein. Liège, c'est la principauté, l'orgueil des principautaires. En dehors de Liège, il n'existe pas grand-chose. Oui, c'est clair que le centre du monde, c'est Liège, et autour, c'est la banlieue. Hein? OK. On a nos traditions. On a nos traditions, on savait qui nous étions par nos traditions, par la famille dans laquelle nous étions. Voir, là je vais me risquer à le dire, mais beaucoup de femmes, à un moment donné, existaient parce qu'elles étaient l'épouse de quelqu'un. Le prince consort d'Angleterre, lui, son problème, c'est qu'il avait à marier la reine. Donc, bon, c'était un petit peu inversé. Tout cela peut nous paraître une structure de société quelque peu emprisonnante. La seule chose, c'est que cette culture dans laquelle, là, nous avons grandi, nous qui avions des cheveux blancs, elle était en tout cas quelque chose qui nous stabilisait, qui nous procurait une certaine stabilité, et qui dit stabilité, dit sécurité. Aujourd'hui, l'identité n'est plus donnée par la société. Ce n'est plus dans le clan, ce n'est plus dans la région, ce n'est plus le lieu où j'ai grandi qui va me donner mon identité. Ce ne sont plus les structures sociales, mais aujourd'hui, c'est l'individu. Chacun est appelé à se définir lui-même et à choisir son identité. Quelqu'un a dit, c'est comme essayer de se soulever du sol en s'attrapant par les bretelles. Cette semaine, on se promenait, ma femme et moi, dans un petit village, et on a trouvé un étalage de choses où il y avait un grand panneau, servez-vous si vous en avez besoin, et transmettez à d'autres. Et j'ai visé une chose, c'était une paire de bretelles. Je n'en avais pas. Mais je me suis dit, tiens, ça peut servir pour l'identité. Mais en fin de compte, trouver son identité en soi, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, au plan de la psychologie, c'est très clair, l'identité, on ne peut pas la trouver en soi. Est-ce pour cela que parce que nous sommes tellement à la recherche de l'identité qu'il y a cette efflorescence des réseaux sociaux et notamment de Facebook, j'en ai parlé tout à l'heure, le besoin de paraître, le besoin d'être identifié, le besoin d'être aimé. Et donc, aujourd'hui, si vous n'avez pas le bras suffisamment long, eh ben, on vous donne la possibilité de la rallonger et de vous faire des photos que vous allez poster sur vos murs Instagram ou Facebook, et ainsi, vous allez avoir des « like it ». Je me souviens toujours d'une fois, à Madagascar, nous avions voulu faire un petit coucou à la famille, et donc j'ai posté sur mon mur une photo d'Anne-Marie avec entourée d'enfants, hein, à Andranatoratra, et plang, 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 plein de like it. Tant et si bien que les petites filles ont dit « Waouh ! Grand-maman, tu fais le buzz, t'en as plus que nous en un jour. » Je vous signale tout de suite que certes, il y a aussi, nous ne sommes pas passés par là, mais il y a des sites où vous pouvez acheter 1000, 2000, 3000, 4000 liked qui vont être postés sur votre mur et faire en sorte que, waouh, comme certains l'ont marqué, ah, vous avez, nous avons 4000 personnes qui nous ont regardé. Ben, en fin de compte, si vous regardez un petit peu plus loin, il n'y en a que 66 qui ont visité le site. Alors, 4000 liked, c'est quand même problème pour 66 visites. Tout simplement parce qu'on a tellement besoin de figurer qu'on est prêt à faire n'importe quoi et acheter des likes à ces gens, ces organismes, vous le tapez sur Google, et vous trouvez likes à acheter, et vous pouvez en acheter avec votre carte de crédit, autant que vous en voulez. Ce n'est pas parce que on m'aime que j'existe. Et je voudrais ce matin vous offrir peut-être le fruit de ma réflexion sur, me semble-t-il, quelque chose qui est plus sûr que cela. Au lieu de nous mettre au milieu, le centre de notre réflexion, au lieu d'essayer de trouver en se s'élevant par les bretelles qui je suis, au lieu de construire un anthropocentrisme, je vous propose plutôt une démarche telle que nous le propose Christopher Wright, qui est un théologien que j'apprécie beaucoup, qui nous dit, mais en fait, au lieu de mettre l'homme au centre, mettez Dieu au centre. Ce qui est un théocentrisme. Et quelque part, le modèle qui a été donné et celui qui est à suivre n'est autre que celui de Jésus-Christ. Et essayons de comprendre quelle est la démarche que l'Écriture nous donne et dans laquelle elle nous invite à entrer. L'identité de Jésus, qui la détermine? Eh bien, un évangile parmi les quatre, je l'ai choisi, c'est l'évangile de Marc. Où là, ça ne va pas être le milieu social, ni la structure qui va être l'identification de Jésus, c'est tout simplement, Marc démarre avec une annonce qui est boum, vraiment comme un coup de canon, commencement de l'évangile, donc de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. On ne nous dit pas qu'il avait des pères, qu'il avait une mère, on ne nous dit pas d'où il vient, si ça vient de l'origine. Chez Marc, c'est clair. Jésus, il est le Messie, il est le Fils de Dieu. Et Marc continue dans sa réflexion, Marc 1, verset 9, où il va, en fait compte, quelque part, nous dire que ce qu'il a dit au départ, eh bien, ça se confirme par quoi ? Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Notons en passant qu'il y a baptême et qu'il y a baptême. Il y a deux sortes de baptême qu'il ne faut pas confondre. Celui de Jean-Baptiste et celui de Jésus. Celui dans lequel aujourd'hui nous sommes baptisés. Jean-Baptiste, qu'est-ce qui l'amène? C'est dire aux Juifs, ce n'est pas parce que vous êtes nés Juifs que vous êtes sauvé. Vous avez besoin d'un sauveur, entrer dans la perspective de vous repentir de ce que vous êtes, afin d'attendre celui qui vient après moi et qui sera celui qui vous sauvera. Le baptême de Jean est un baptême dans lequel l'homme apprend à prendre conscience de qui il est et d'attendre quelque chose. Le baptême dans lequel nous sommes baptisés, c'est celui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui, lui, nous assure que notre repentance et notre conversion nous font que nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Mais alors, pourquoi est-ce que Jésus a dû passer par les eaux du baptême? Lui, il était sans péché. Il n'avait pas besoin d'attendre un sauveur, c'était lui le sauveur. Mais comme dit l'Écriture, il fallait que justice soit faite. Et c'est pourquoi il y a cette phrase de Jean-Baptiste qui dit « Mais ce n'est pas à moi à te baptiser, c'est plutôt à toi à me baptiser. » Et Jésus va dire « Non, non, il faut que ça rentre dans le cheminement, dans la voie, dans ce qui doit être fait. Jésus nous rejoint dans notre humanité, dans ce que nous sommes. Il entre dans notre humanité. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'esprit comme une colombe descendre sur lui. » Alors, ce petit verset 10 nous appelle à ceci, tout simplement dans l'évangile de Marc. Il semble que ce ne soit pas les autres qui aient entendu, mais que ce soit lui qui ait entendu. C'est une révélation qui va être personnelle. Il remontait de l'eau et il vit les cieux se déchirer. Une chose qui est intéressante. Une chose qui est intéressante et qui est importante, me semble-t-il, à noter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société du sentiment et de l'émotion. Tout doit être dans le sentiment et dans l'émotion. Ce qui fait que bien souvent, on va se méprendre sur la suite et sur le verset 11. Et Marc, si nous le lisions en grec, utilise un mot, les cieux se déchirer, et ce mot-là, Marc ne va le reproduire que une seule autre fois. C'est à deux endroits où Marc nous utilise ce verbe que nous traduisons par se déchirer. L'autre endroit, c'est lequel ? C'est le voile qui se déchire. Et donc, si nous lisions l'évangile, quelque part, Marc suscite déjà, au départ de son évangile, quelque chose qui va nous porter à la fin de l'évangile. Et vous allez voir que ce n'est pas la seule chose. Les cieux se déchirent et l'esprit comme une colombe descend sur lui. Je passe et j'avance. Et des cieux vint une voix, « Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » J'ai, moi, choisi la version de la Nouvelle Bible Second, parce que la version traditionnelle que nous entendons la plupart du temps et que moi j'ai en mémoire dans ma Bible Second traditionnelle, c'est « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Waouh ! Super ! On est « Le Père aime le Fils. » Il chérit son Fils. Ouais, attends deux minutes, tu vas voir. C'est peut-être pas forcément ce que nous dit le texte. Mais il y a une chose qui est assez étonnante. C'est que Jésus sait qu'il est le Fils de Dieu par cette voix du Père. mes amis, c'est quand même extraordinaire l'Évangile. Il a fallu 19 siècles pour que la psychanalyse dise l'identité de la personne, de l'enfant, provient de la voix du Père. Waouh ! 19 siècles avant, ça se trouve dans l'Évangile. On n'est pas dans un cours de psychanalyse, mais je pourrais que vous dire combien la parole du Père est importante dans la construction de l'identité de l'enfant, qu'il soit garçon ou fille. Aujourd'hui, bien souvent, on fait l'impasse sur le père. Et ben, moi, je tape mon poing sur la table et je dis, l'identité, elle vient du père. Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. C'est ce que Jésus entend, c'est une théophanie. Wow, c'est un beau mot ça, hein, théophanie. Qui a un médecin qui s'appelle Théophane? Qui? Moi, nous avons, Anne-Marie et moi, un médecin béninois qui s'appelle Théophane. Waouh, c'est extraordinaire. Mais c'est une véritable manifestation de Dieu. Théophanie, c'est une manifestation de Dieu. Un autre médecin, il fait 2,5 m, 160 kilos. Je peux vous garantir que quand il passe, ça bouge. Eh bien, ici aussi, c'est une théophanie. Alors, il faut peut-être simplement que je revienne en arrière parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'était une révélation. Eh bien non, ce n'est pas une révélation, car Jésus sait d'où il vient. Il n'a pas besoin que cette voix lui dise d'où il vient. Ce qu'il a besoin, c'est une confirmation. Et cette confirmation, il va la recevoir par ce que le Père va donner, ce qui va amener, suite à cela, quand il connaît son identité, il va pouvoir entrer dans son action. Car c'est à partir de là qu'il commence son ministère public sur la terre. Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. Confirmation qu'il est le Père, qu'il est le Fils, pardon, par le Père. Mais déjà dans le psaume 2, verset 7, il y a quelque chose de semblable. Lorsque, en fait, David dit ceci, « Je vais proclamer le décret du Seigneur, il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Jésus n'a pas été engendré, comme disent les témoins de Jéhovah. Jésus était de toute éternité avec le Père. Mais c'est bien de David dont il est question, « Tu es mon fils. » Alors, il y a une chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que, en fin de compte, fils de Dieu est quelque chose, une appellation qui est dite à Jésus, mais fils, c'est aussi une appellation qui se trouve dans l'Ancien Testament. Pour employer de façon différente, pour des anges, quand vous passez par Job, chapitre 1, verset 6, eh ben, il est question aussi des fils de Dieu qui viennent se présenter devant l'Ancien des Jours. C'est aussi une expression qui est donnée au roi David en 2 Samuel chapitre 7, verset 14, etc. Donc c'est une appellation que quelque part qui a été donnée aussi à des hommes. Et je pense que c'est important pour nous, les êtres humains, de savoir que cette appellation-là est une appellation qui est quand même une appellation qui est courante dans la Bible. Tu es mon fils bien-aimé. Alors là, aujourd'hui, on tombe, je vais vous faire pendant 2 minutes, un peu des langues, agapetos, ça c'est la traduction de bien-aimé. Et je voudrais vous rappeler un texte, Genèse chapitre 22, verset 2. La NBS traduit « Dieu dit, prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. » Est-ce que c'est Alzheimer qui est à l'œuvre ou est-ce qu'il y a un problème? Fils unique, Abraham n'avait qu'un seul fils? À ce que je sache, il en a au moins deux. Il y a Ismaël et puis il y a Isaac. Ce n'est pas un fils unique. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi. Yahid, qui est le mot utilisé par la Bible, Yahid, pour désigner Isaac, vient d'une racine Yahad. Je vous promets, on ne va pas plus loin. Le verbe Yahad veut dire unir, être joint, être uni. En fait, le fils unique, ce n'est pas qu'il soit le seul fils qu'il ait, mais celui dont il est le plus proche, celui avec lequel il est un, celui avec lequel il y a une communion intense entre Abraham et Isaac. La seule chose, c'est que ce mot est utilisé autre part dans la Bible, Yahid, mais toujours dans un contexte de mort. Ah. Ah. Il y a toujours une idée derrière de mort. La Bible des Septante, lorsque les rabbins ont traduit l'hébreu en grec, ont traduit cela comme « Prends, lui dit Dieu, ton fils, ton enfant, ton fils chéri Isaac. » En passant, je vous dis tout de suite, regardez comment on a traduit « Prends, lui dit Dieu, prends ton fils. » Ça, c'est l'original. « Je te prie. » Le fait que Dieu dise, et avec une prière de Dieu à la clé, est déjà insupportable. Apparemment, pour les rabbins, ils ont supprimé la prière. Ils en ont fait un commandement. « Prends, lui dit Dieu, ton enfant, ton fils, chéri. » Et là, on utilise le mot agapetos comme dans l'évangile de Marc au chapitre 1, verset 11. Effectivement, il y a une notion d'affection, mais il y a surtout une dimension qui se cache derrière et qui est là. C'est une confirmation qui dit la relation qu'il y a entre le Père et le Fils. Mais mes amis, mon Fils bien-aimé, ce n'est pas une question de sentiment. Derrière ce mot, il y a déjà la croix qui se profile. La croix, elle est déjà là. Au départ du ministère de Jésus, dans cette confirmation que Jésus reçoit, il y a déjà la croix qui s'inscrit, non seulement dans le mot déchiré, mais dans bien-aimé. Il m'a plu de te choisir, c'est une notion de élection. Il a été choisi. Mais dans Ésaïe 42, verset 1, vous avez ce verset. Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu en qui mon âme se complaît, j'ai mis mon esprit sur lui. Le serviteur, les chants du serviteur du prophète Ésaïe, ce serviteur souffrant, celui que Ésaïe annonce, ce serviteur qui sera, en fin de compte, Ésaïe 52-53, celui qui doit venir porter les péchés du monde. Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, de nouveau cette notion de tenir fermement mon élu, un choisi. Un choisi, quelqu'un qui est choisi parce que il plaît à Dieu. Et donc, ça veut dire qu'il y a une mission à accomplir. Ce n'est pas une question seulement de sentiment, mais c'est aussi une question de mission. Et qu'est-ce qui plaît à Dieu? Le sang des taureaux? Le sang des bœufs? Ce qui plaît à Dieu, me dit 1 Samuel 15, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance qui plaît à Dieu. Telle est l'identité de Jésus, c'est le Père qui lui confirme en présence de l'Esprit Saint. Mais mon identité à moi, comment est-ce que je peux m'approprier ce qui vient d'être dit? Comment est-ce que je peux me l'approprier à moi dans ce qui vient d'être exposé? Eh bien, si nous regardons chapitre 8 de l'Épître aux Romains, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont, dites-le, fils de Dieu. Dans ton identité, est-ce que tu as cette conviction? Je suis fille de Dieu, je suis fils de Dieu. Bien souvent, nous sommes dans cette perspective où nous disons, oui, nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous avons peur. Et nous mettons des freins quant à dire, oui, je suis fils de Dieu. Ma femme a des freins quand elle doit dire, oui, je suis fille de Dieu. As-tu des freins? Non. C'est bien d'être sans freins. Est-ce que vous voyez la révélation que cela fait en nous, la révolution que cela provoque? Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, donc d'esclave, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas dire Père avec sincérité que par la puissance du Saint-Esprit. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ce qui est valable pour Christ est valable pour moi. Mais pensez bien que tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis, non, en qui je me suis plus. Pensez bien qu'en fait compte, être enfant de Dieu, ce n'est pas seulement avoir le sentiment d'être aimé du Père, savoir aussi son amour pour moi, c'est une chose, mais savoir aussi que cela m'engage et ne me laisse pas simplement à dire qui suis-je. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, ça c'est l'espérance que nous avons, qui est la nôtre, et que, dont nous avons commencé le culte tout à l'heure. L'identité. John Stott a résumé la notion d'identité par ceci. Ce que je suis détermine ce que je pense. Ouais, mais moi je ne vaux rien, moi je ne sais rien faire, je suis un bon à rien, moi j'ai jamais été incapable de faire quelque chose, avec moi on n'y arrivera jamais, moi je ne suis rien. Combien de fois dans mon ministère pastoral j'ai entendu des gens qui me disaient « je ne suis rien ». Et à qui je répondais « alors Jésus est mort pour rien ». Mais si je ne suis rien, pourquoi est-ce que Jésus est mort pour moi ? Non, je représente quelque chose aux yeux de Dieu. Et donc, ce qu'il faut que j'intègre dans ma réflexion, c'est ce que je suis. Et dès lors, cela va déterminer ce que je pense. Mais ce que je pense, dit John Stott, détermine ce que je fais. Si j'ai conviction que je suis fils de Dieu, si j'ai la conviction que je suis fille de Dieu, il y a des tas de choses que je ne ferai pas. Que je ne ferai pas. Nous sommes enfants de Dieu, telle est mon identité ainsi que la tienne. Adopté par le Père en son Fils Jésus-Christ, je bénéficie de ce titre, d'une relation étroite, la même dont on a parlé tout à l'heure, une relation unique, cette présence que Dieu manifeste, privilégiée avec lui. C'est pas parce que je m'appelle Jean-Marie Thomas, c'est tout simplement le fait qu'il m'a élu, qu'il m'a choisi. Tu as été choisi. Et bien souvent, je dis au Seigneur, mais pourquoi moi, poussière dans l'infini, pourquoi moi tu m'as choisi? Pourquoi est-ce que tu t'es choisi de te révéler à moi? Il y a des choses que je ne comprends pas. Et c'est vrai que il y a des choses que, par rapport à l'amour de Dieu, que j'ai pas encore suffisamment de mots que pour l'exprimer, comme dit le chant. Et cela, si c'est Dieu qui m'élit, me conduit à une obéissance et à la consécration pour lui. À l'action. Ma recherche d'identité? Ma recherche d'identité? Elle disparaît après avoir pris conscience de mon péché. Et que je suis pécheur, de la grâce qui m'est réservée, du pardon que Dieu m'accorde en Jésus-Christ. Par la nouvelle naissance, je ne me pose plus la question de l'identité, je me pose simplement aujourd'hui le fait de dire, Seigneur, en quoi puis-je t'obéir? Et ça, c'est ma louange. Alléluia. Qui suis-je? Dans ce monde en crise, dans toutes les difficultés que je vis, il y a une chose que je sais, c'est que mon nom est inscrit dans les livres de vie. Je suis un enfant bien-aimé du Seigneur. Tu es un fils, tu es une fille du Seigneur. Mais sache que je le suis aussi. Et dès lors, je ne peux pas te considérer comme quelqu'un d'inférieur à moi. Dès lors, je ne peux faire qu'une chose, c'est de t'aimer comme le Père t'aime, de t'accueillir comme Jésus t'accueille, de t'aider comme l'Esprit Saint t'aidera dans ta vie, et de me mettre à ton service comme Jésus. C'est mis à au service et devenu l'esclave en prenant cette position lorsque il lave les pieds de ses disciples. Cela doit être une révolution aussi dans ma vie. Ce n'est plus moi le centre. Le centre de ma vie, c'est Jésus. Amen. Nous voulons prier ensemble. Seigneur, sois le centre. Sois le centre de notre vie. Sois le centre de ma vie. Que je puisse vraiment être convaincu de cette révélation. Que je n'oublie pas dans les moments difficiles, dans les moments de crise, dans les moments où il faut les franchir des étapes. Que je n'oublie pas que je suis ton enfant, ta fille, ton fils. Seigneur, aide-moi à pouvoir inscrire cela dans mes pensées. Aide-moi à pouvoir inscrire cela dans mes actions, dans ma façon de vivre. Que tout ce que je fais transpire de ton amour. Transforme ton Église, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Transforme-nous de gloire en gloire par la puissance de l'Esprit-Saint. Conduis-nous, Seigneur, sur la voie de l'accomplissement afin d'être trouvés en toi. Père, nous voulons nous remettre les uns les autres à ta grâce, te remettre notre communauté ici à Autigny, te remettre les responsables, pasteurs et conseil pastoral, te remettre tous ceux qui ont une responsabilité au sein de cette Église. Nous voulons te dire, Seigneur, que toute notre Église soit une Église qui ne cherche pas à être reconnue, mais qui sache qu'elle l'est voulue de toi et qui transpire de ton amour. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Père, accorde-nous l'accomplissement de cette prière. Amen. Amen.